Le grand titre de ce 7 janvier, en Australie, les pompiers de la Nouvelle-Galles du Sud demandent aux gens de rester vigilants avec des températures maximales de 45 degrés prévues aujourd'hui. Donald Trump, le président américain, se défend après la publication du livre « Fire and Fury ». Il se dit être, je cite, « un génie très équilibré ». Et puis la Suisse a remporté la Hopman Cup de tennis hier à Perth. Journée d'interdiction totale d'allumer des feux à l'extérieur dans plusieurs régions de la Nouvelle-Galles du Sud ce dimanche, avec les risques d'incendie de brousse. Selon le bureau de la météo, il fera 45 degrés dans plusieurs endroits de la Nouvelle-Galles du Sud. Rob Rogers est de la New South Wales Rural Fire Service et il donne cet avertissement sur la chaîne 7.
Temperatures right across the state will be elevated today, so the fire risk will be right across the state. But it is particularly focused on the Sydney and Hunter areas. And those temperatures are going to be in the mid-40s. Obviously gusty northwesterly winds, very dry humidity. So we've got this obviously for today. Change come through, another warm day tomorrow, and we're expecting those conditions to ease on Wednesday.
Voilà le porte-parole de la New South Wales Rural Fire Service. Dans le Victoria, la situation s'améliore après la canicule d'hier. Des résidents avaient été évacués à Caron Downs après des menaces des feux de brousse. Une maison a été endommagée. Et en Australie méridionale, les feux dans la région de Sherwood sont sous contrôle après la perte de 12 000 hectares de terrain. Selon les pompiers, les fermiers doivent rester vigilants et ceux qui ont quitté la région ne doivent pas revenir pour l'instant. Le président des États-Unis, Donald Trump, continue à rejeter les déclarations publiées dans le livre « Fire and Fury » sur les coulisses de la Maison-Blanche qui mettent en cause sa santé mentale. Il déclare qu'il est, je cite, « un génie très équilibré ».
« I consider it a work of fiction ». And I think it's a disgrace that somebody's able to have something, do something like that. The libel laws are very weak in this country. If they were strong, it would be very helpful. You wouldn't have things like that happen where you can say whatever comes to your head. But just so you know, I never interviewed with him in the White House at all. He was never in the Oval Office. We didn't have an interview.
Voilà, c'était Donald Trump. Analyse maintenant avec Anne Corpé pour Radio France Internationale.
D'homme d'affaires très fructueux, je suis devenu star de la télévision, puis président des États-Unis élu au premier coup. Je crois que l'on peut me qualifier non pas d'intelligent mais de génial, un génie très stable. Avec ce tweet, Donald Trump confirme son narcissisme et ne fait qu'amplifier les doutes de ceux qui s'interrogent sur son équilibre psychique. Surtout que dans sa série de messages, il fait référence aux soupçons similaires qui portaient sur Ronald Reagan à l'époque où il était président, sauf que Ronald Reagan était bel et bien atteint de la maladie d'Alzheimer. Le débat sur l'état mental du président a été relancé par la sortie du livre « Feu et fureur » qui décrit un homme au comportement erratique, complètement égocentrique, tenté par les thèses conspirationnistes et dénuées de tout sentiment d'empathie. Les inquiétudes sur l'équilibre psychique du président sont partagées par des professionnels. 27 psychiatres ont co-signé cet automne un ouvrage sur son état mental, qualifié de dangereux pour le pays. Et l'éditeur du livre a été invité début décembre par une douzaine d'élus, dont un républicain, pour évoquer ce diagnostic réalisé, il faut le préciser, sans avoir rencontré directement le patient. Donald Trump doit justement se soumettre la semaine prochaine à son premier examen de santé en tant que président, mais il ne comprend normalement pas de tests psychiatriques.
Anne Corpé pour RFI. Et puis Twitter s'est prononcé sur les messages publiés sur son site par le refus de supprimer les comptes des dirigeants politiques, qu'ils soient controversés ou non. Précision de Marie Lecoq pour RFI.
Pas question pour Twitter de supprimer les comptes ni les messages des dirigeants politiques, même s'ils sont controversés. Malgré les polémiques, la position du réseau social est claire. Et même si personne ne cite son nom, tout le monde a les yeux rivés sur le compte de Donald Trump qui publie quotidiennement des tweets jugés agressifs. Dernier exemple marquant, mardi dernier, le président a adressé une menace à peine voilée aux dirigeants nord-coréens. Kim Jong-un vient d'affirmer que le bouton nucléaire est sur son bureau en permanence. Informez-le que moi aussi j'ai un bouton nucléaire, mais il est beaucoup plus gros et plus puissant que le sien et il fonctionne, avait-il tweeté. Alors que Twitter bloque régulièrement des comptes qui enfreignent les règles d'utilisation, bloquer un dirigeant reviendrait à dissimuler des informations importantes selon selon la plateforme. Le cas Donald Trump est aussi une affaire de réputation pour Twitter. Le président américain est l'un de ses utilisateurs les plus connus. Grâce à lui, le nom du réseau social est quotidiennement cité dans les médias. Surtout, bannir Donald Trump provoquerait un violent débat sur la liberté d'expression en ligne, un sujet particulièrement sensible aux États-Unis.
Voilà, c'était Marie Lecoq pour RFI. Le président américain Donald Trump se félicite pour avoir facilité le dialogue entre la Corée du Sud et la Corée du Nord sur plusieurs questions clés. Le président américain espère aussi une solution sur la crise de la péninsule coréenne. On l'écoute.
President Moon of South Korea. He thanked me very much for my tough stance and for 25 years they haven't been using a tough stance. They've been giving everything. When you look at what Bill Clinton did, and you've seen the famous clip where Bill Clinton wants to give him everything, you have to have a certain attitude and you have to be prepared to do certain things, and I'm totally prepared to do that.
Voilà, c'était Donald Trump, le premier naufrage d'un bateau transportant des migrants au large de la Libye hier en mer Méditerranée. C'est le premier naufrage de 2018, au moins 25 personnes mortes noyées. Écoutez Francis Valla, président de l'association SOS Méditerranée, une association qui effectue des patrouilles en mer.
Ce sont des bateaux qui sont faits n'importe comment pour flotter quelques heures. La plupart des bateaux, c'est à ça que ça correspond, qu'il s'agisse de gonflables ou d'embarcations en bois ou etc. Par exemple, si vous voulez, pour les gonflables, vous avez pas de plancher, mais des planches qui sont mise en dessous pour que les gens puissent tenir debout dessus avec les clous qui dépassent et à chaque fois on a des blessés, etc. Sans pas, et quelquefois, mais hélas, on a eu aussi des morts puisque ces bateaux sont surchargés. Non seulement ils sont précaires, mais ils sont surchargés. Donc tout le monde est debout et la plupart des morts sont des enfants hein, qui sont plus petits que les autres. Donc, ils respirent les vapeurs d'essence, qui n'ont pas assez d'air pour respirer, etc. Ah, oui, non, c'est... Sur Terre, c'est le crime contre l'humanité et les conditions dont je ne reviens pas depuis le reportage de la CNN. Enfin, ça a ouvert les yeux de beaucoup de gens. Et puis, sur mer, oui, les conditions sont absolument sordides.
Voilà, c'était le porte-parole de SOS Méditerranée. Au Sénégal, au sud de la Casamance, 13 civils ont été tués hier. Ils étaient partis chercher du bois et seraient tombés sur des individus armés. Écoutez le porte-parole de l'armée sénégalaise, le lieutenant Diaye, sur RFI.
Ce matin, 21 civils, originaires donc d'un village qui s'appelle Bourofaï, s'étaient rendus dans la forêt pour chercher du bois. Donc, ils ont rencontré une bande d'une quinzaine d'individus armés qui ont lâchement tiré sur eux. Aussitôt après, le commandant de zone averti a fait intervenir une compagnie de parachutistes. Quand ils sont arrivés sur le lieu, malheureusement, c'est pour constater qu'il y a eu 13 morts, 7 blessés et 11 rescapés. Les blessés ont été évacués à l'hôpital et la compagnie est restée sur place. Elle est en train de mener des opérations en vue de retrouver la bande qui a commis cet acte ignoble que nous regrettons.
Est-ce qu'on peut y voir derrière la main du MFDC?
En fait, on saurait se déterminer pour l'heure, donc l'enquête permettra de le déterminer.
Voilà, c'était le porte-parole de l'armée sénégalaise. La Ligue arabe va rechercher le soutien de la communauté internationale pour un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale. Les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe se sont réunis à Amman hier. Écoutez le ministre palestinien des Affaires étrangères, Ayman al-Safadi.
We have specific requests, the most important of which is the recognition of a Palestinian state with Jerusalem as its capital, according to the June 4, 1967 borders. Just as there was a political decision to recognize Jerusalem as the capital of Israel, we will now work to achieve an international political decision recognizing the Palestinian state at the 1967 border with Jerusalem as its capital.
Voilà le ministre palestinien des Affaires étrangères. En France, ce dimanche marquera 3 ans après l'attaque contre Charlie Hebdo, lors de laquelle 12 personnes, dont 7 membres de la rédaction, ont été exécutées et 11 autres blessées. Reportage Pierre-Olivier, RFI.
4 millions de personnes dans les rues de Paris les 10 et 11 janvier, c'était en 2015. Mais voilà, 3 ans plus tard, le slogan « Je suis Charlie » semble ne plus faire l'unanimité dans le pays. Ironie du sort, Charlie est même devenu un symbole de division. Et la journée de débats et concerts organisée ce samedi en est la preuve, vivement critiquée par certains. En cause, les organisateurs à l'origine de la manifestation, ils sont 3, le Printemps républicain, le Comité Laïcité République et la Ligue nationale contre le racisme et l'antisémitisme. Le Printemps républicain, par exemple, fondé par d'anciens membres du Parti socialiste, est accusé par certains de récupération à des fins politiques, notamment au profit de l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Autre point de discorde, les invités des débats. Aucun contradicteur comme Edoui Plenel, le patron de Mediapart, n'a été convié. Seuls les défenseurs d'une laïcité dure et très critique sur l'islamisme politique s'exprimeront. Enfin, seul le rédacteur de Charlie Hebdo et sa directrice des ressources humaines ont accepté de participer à l'événement.
Pierre Olivier pour RFI. En Australie à nouveau avec la communauté copte qui célèbre la Noël avec une pensée pour les victimes tuées en Égypte récemment. John Noor est du diocèse copte de Sydney et il est sur SBS.
We celebrate the birth of Christ, our Savior, but in the meantime we are sad and sorrow to see the continuous attack on the Copts of Egypt in Egypt and the continuous persecution of Copts who are living in Egypt, the killings, the massacre of Copts, as we have seen early last week on the New Year's Eve, of how 12 people were killed in the city of Helwan.
Voilà, John Noor de la communauté copte de Sydney. Bientôt le 4e anniversaire de la disparition du vol MH370. C'était du 7 au 8 mars 2014 avec 239 personnes à bord. Et un an après la fin des recherches officielles dirigées par l'Australie, une société américaine, Ocean Infinity, reprend les recherches à ses frais. Précision de Florence de Changy pour RFI.
La zone des recherches menée par l'Australie, une zone de 120 000 km² à plus de 2 000 km au sud-ouest de l'Australie, avait été déterminée sur la base d'analyses extrêmement sophistiquées, basées sur des signaux passifs que l'avion aurait continué d'émettre après sa disparition des écrans radars entre la Malaisie et le Vietnam. Malgré l'aspect aléatoire de ces calculs, le rapport australien publié il y a 3 mois indique avoir acquis la quasi-certitude que l'avion serait plutôt dans une zone de 25 000 km² située au nord de la zone recherchée. L'entreprise Ocean Infinity a proposé d'explorer cette zone et de n'être payée qu'en cas de succès. Selon un email envoyé vendredi aux familles des passagers disparus, la Malaisie aurait tout juste accepté l'offre. Basée sur les mêmes analyses, il reste toutefois hautement improbable que cette recherche aboutisse. Les recherches australiennes, qui n'ont servi à rien dans l'enquête sur ce mystère, ont toutefois permis de réaliser des cartes détaillées du relief sous-marin dans une zone jusque-là non explorée, des informations très utiles à l'industrie pétrolière ainsi qu'aux entreprises de pêche en grande profondeur.
Florence de Changy pour RFI. Coup d'œil météo pour ce dimanche. En Australie, Perth maximale de 30 degrés, Adélaïde 26 degrés, Melbourne 22, Hobart 24, Canberra 39, Sydney 40, Brisbane 32, Cairns 33, Darwin 30 et à Alice Springs maximale de 39 degrés. Rappel des grands titres de ce 7 janvier. En Australie, les pompiers de la Nouvelle-Galles du Sud demandent aux gens de rester vigilants avec des températures normales maximales de 45 degrés prévues aujourd'hui. Donald Trump se défend après la publication du livre Fire and Fury. Il se dit être, je cite, un génie très équilibré.